Radio Okapi. Okapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
Bientôt les fêtes de fin d'année, période où la demande augmente sur les marchés. Mais est-ce que les stocks de vivres et autres produits de première nécessité sont suffisants pour couvrir les besoins des Congolais? Affirmatif rassure les gros importateurs. C'est après une réunion hier à Kinshasa avec le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. Une maladie inconnue jusqu'ici a déjà tué une centaine de personnes ces dernières semaines dans la zone de santé de Panzi, province du Kwango. Le gouvernement congolais dit être en alerte maximale après cette découverte. Et puis, l'invité de ce matin, Noël Mbemba, c'est lui qui coordonne le secrétariat technique qui s'occupe du désengagement de la mission onusienne au Congo. Il nous parle de la mission conjointe gouvernement MONUSCO, agence des Nations Unies en cours à Bukavu, dans le sud Kivu. Madame, messieurs, bonjour. Nous sommes à moins de 3 semaines, ou plus ou moins, des fêtes de fin d'année, période où la demande augmente sur les marchés. Quels sont les stocks de vivres et autres produits de première nécessité dont disposent des gros importateurs dans leurs entrepôts? Cette question était hier, jeudi, au menu de la réunion entre le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, et les représentants des gros importateurs, conduits par Laurent Yogo, chef du département en charge des questions juridiques et sociales à la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Les représentants de Socimex, Mondial Food, AfriFood, Sodeco, Beltexco, Premium Food, pour ne citer que ceux-là, ont tous rassuré que leur société dispose d'importants stocks pouvant permettre à la population congolaise de passer les fêtes de fin d'année sans inquiétude. Écoutez à ce sujet John Mwenda, directeur général de Premium Food. Il est au micro de Richard Junior Kamunga.
Les stocks sont disponibles. Nous avons rassuré le VPM et tous les gouvernements que les différents importateurs ont assez de stock. En ce qui nous concerne, nous avons en permanence minimum 3 mois de stock dans nos entrepôts, que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Mbujimayi, à Kananga, et c'est la même chose pour tous les autres importateurs. Donc nous rassurons le gouvernement qu'il n'y aura aucun problème de stock sur le marché. Nous avons longuement travaillé avec le VPM sur la baisse des prix sur le marché, et dans ce cadre, plusieurs mesures ont été prises au niveau du gouvernement. Un arrêté a été promulgué qui est déjà en application au niveau de la douane et les effets vont commencer à porter leurs fruits à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, le VPM lui-même sera sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de la baisse des prix.
Parlons santé à présent. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est en alerte maximale après la découverte d'une maladie non encore identifiée dans la zone de santé de Panzi, dans la province du Kwango. Le ministre de la Santé publique l'a fait savoir hier jeudi lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Entre-temps, la maladie a déjà fait une centaine de morts ces dernières semaines. Selon le ministre provincial de la Santé, plus de 380 personnes présentant les symptômes de cette maladie sont enregistrées dans 7 des 30 aires de santé du Kwango. Santé toujours. Dans la province de l'Équateur, 610 000 enfants de moins de 5 ans sont attendus pour la vaccination contre la poliomyélite, campagne lancée depuis mercredi à Mbandaka par le vice-gouverneur de province pour les 18 zones de santé que compte l'Équateur. Les agences du système de l'ONU qui appuient le gouvernement demandent l'implication de toutes les parties prenantes en vue de la réussite de cette campagne qui se déroule simultanément dans les 4 autres provinces de l'Équateur démembrées. Le point avec Paul-Richard Malengela.
Selon le chef de bureau de l'UNICEF ex-Équateur, Sogo Babakari, représentant des partenaires d'appui technique et financier, la province de l'Équateur demeure à risque de circulation du virus de la poliomyélite, car depuis 2020, elle a fortement été touchée par cette épidémie, avec 42 cas sur les 84 enregistrés dans toute la RDC. L'année suivante, 2 cas se sont ajoutés, issus de poliovirus variant de type 2. Quoiqu'en 2024, aucun cas positif n'ait été notifié, ajoute M. Sogo Babakari, la menace reste grandiose dans la province, vu les échanges permanents que l'Équateur développe par voie fluviale et terrestre avec les provinces en cours d'épidémie active telles que Maïndombe et Tchopo. Voilà pourquoi les partenaires du gouvernement exhortent tous les prestataires à demeurer proactifs et efficaces durant la présente campagne de vaccination, mais aussi dans la vaccination des routines, la surveillance épidémiologique concernant particulièrement la paralysie flasque aiguë PFA, en vue de garantir l'éradication de la polio dans la province. province de l'Équateur et en RDC. D'où l'appel lancé à toutes les parties prenantes, dont les acteurs étatiques et non étatiques. Bandaka pour Chamalingué, la radio Okapi.
Notez que cette campagne qui va jusque demain 7 décembre fait recours au nouveau vaccin VPO administré aux enfants de porte à porte. Elle prévoit aussi une récupération vaccinale pour les enfants et les femmes enceintes n'ayant pas commencé soit achevé leur calendrier de routine. Justice. La haute cour militaire confirme en appel la peine de mort contre Corneille Nangaa et ses complices, accusés de crimes de guerre et de participation au mouvement insurrectionnel. Ces derniers sont à nouveau condamnés à la peine de mort, accompagnés de la confiscation de l'entièreté de leurs biens. Ceci ressort de l'arrêt rendu hier jeudi à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, promet ainsi de veiller à l'exécution de cette peine. Il annonce la vente aux enchères des biens confisqués des condamnés et dont l'argent généré servira à l'indemnisation des victimes. Les cinq condamnés présents sont Safari Bishori, Nikes Makinu, Reuters Nanga, Eric Nkuba alias Malembe et Samafu. Des mandats d'arrêt internationaux seront émis à l'encontre des fugitifs, a dit le ministre de la Justice, Constant Mutamba, au micro de Jeff Ngoy.
C'est une grande satisfaction pour la République et pour le peuple congolais. La cour militaire a confirmé la condamnation à mort de tous les criminels qui ont été appréhendés aux côtés de Monsieur Corneille Nangaa, qui ont décidé de trahir la République et de servir les intérêts du Rwanda. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort. À cet effet, nous, en tant que ministre de la Justice, nous allons veiller que la peine de mort soit exécutée contre les condamnés, en tout cas les cinq qui étaient appréhendés et sont sur place ici à Kinshasa. Nous allons veiller également à lancer de mandats d'arrêt internationaux contre M. Corneille Nangaa et ses affidés en fuite.
Sachez que ce procès contre Corneille Nangaa et ses complices est loin de se terminer. La défense qui a rejeté l'arrêt en appel rendu par la haute cour, plaidant toujours non coupable comme au premier degré, annonce déjà ses pourvoirs en cassation dès aujourd'hui contre ce jugement qu'elle qualifie d'injuste et politique. Entre-temps, en Ituri, 11 personnes sont condamnées à des peines allant de 20 ans de servitude pénale à la peine capitale à Biakato, dans le territoire de Mambasa. C'est à la suite des audiences en chambre foraine du tribunal militaire garnison de l'Ituri. Parmi les 16 prévenus qui ont comparu, 8 sont condamnés à la peine capitale, 3 autres à 20 ans de servitude pénale et 4 prévenus acquittés faute des preuves. Les 8 condamnés à mort ont été reconnus coupables d'association des malfaiteurs, vol à main armée et extorsion. Il s'agit pour la plupart des bandits armés qui ont commis plusieurs exactions dans la région de Biakato. Restant en Ituri, les magistrats du parquet près le tribunal de paix d'Irumu travaillent dans des conditions médiocres. La procureure générale près la cour d'appel de l'Ituri, Edoxi Maswama, a fait ce constat hier jeudi à l'issue d'une mission d'inspection judiciaire menée sur place avec l'appui de la section d'appui à la justice de la MONUSCO. Edoxi Maswama sollicite l'intervention des autorités compétentes et des partenaires. La procureure générale près la cour d'appel de l'Ituri est au micro de Sadiq Aboubakar.
J'ai trouvé des magistrats vraiment engagés dans la mesure où c'était de nouveaux magistrats récemment nommés ici. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient bien encadrés par leur chef à travers leur registre et même à travers certains PV. J'ai senti que c'était des gens qui étaient maintenant aguerris pour pouvoir faire ce travail de magistrat. Mais le deuxième constat, il est vraiment malheureux. Parce que je constatais que le magistrat n'était pas dans de très bonnes conditions. Ils avaient un tout petit local, un ancien bâtiment. C'était, je crois, un bureau de la cité. Il est vieux, de sorte que chacun d'eux à un petit bureau comme ça, à peine s'ils peuvent tenir à deux dedans. C'est-à-dire, lui, les magistrats instructeurs et un autre. S'il veut faire une confrontation, je ne vois pas comment cela peut se faire. C'est avec beaucoup de peine au cœur que je m'exprime. Ce message, en fait, c'est aussi un plaidoyer pour toutes les autorités qui auront à écouter ces messages. Sache que les magistrats qui sont à Irumu travaillent dans des conditions qui ne sont pas bonnes. Et s'ils continuent à travailler dans ces conditions, leur rendement risque de ne pas être bon.
Et puis, réactiver les mécanismes de consultation entre le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les FARDC et la police dans le cadre des violations des droits humains, cette question a fait l'objet de l'échange hier à Calémie entre le directeur du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme et le commandant de la 22e brigade des FARDC. D'après Patrice Var, il y a eu baisse d'intensité de la collaboration entre le Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme et les forces de sécurité après le départ de la MONUSCO dans le Tanganyika. Il précise que l'objectif de cette collaboration est la promotion et la protection des droits humains. Patrice Var, directeur du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, au micro de Paulin Munanga.
Nous avons échangé sur la réactivation des mécanismes de consultation que nous avions avec la FARDC et la PNC, qu'on appelle le comité de suivi des cas, qui nous donne l'opportunité justement d'échanger sur ce que nous avons observé. S'il y a des allégations d'abus ou de violations des droits humains qui sont attribuées au FARDC ou à la PNC, on donne l'opportunité à la police et à l'armée de donner sa version. Pour nous, c'est important, mais mieux de voir là où il y a des abus ou bien des violations avérées, quels sont les mécanismes interne à l'armée et à la police de corriger cela. Ça rassure les populations et j'ai été très ravi de voir que le général est d'avis que nous réactivions tout cela. Il y a eu une baisse d'intensité de cette collaboration après le départ définitif de la MONUSCO. Je lui ai donné l'assurance que je suis justement venu à Calémie pour rassurer que non seulement l'ensemble de la famille des Nations Unies, mais en particulier le Bureau des droits de l'homme va rester aux côtés des autorités de cette région.
Autre nouvelle, l'arbre, le salut de notre planète, plantons-le et gardons-le dans nos milieux. C'est sous ce thème que la ministre de l'Environnement et Développement Durable a lancé hier 5 décembre la semaine de l'arbre. C'est en marge de la journée nationale de l'arbre dont la cérémonie s'est déroulée depuis le parc Mobutu de l'Ancelé à Kinshasa. Ici, en compagnie des services spécialisés dans la protection de la biodiversité, F. Bazaïba et ses collaborateurs ont planté quelques arbres au sein du parc avant de demander à tout citoyen congolais d'en faire de même dans son milieu respectif. Madame F. Bazaïba, dans ses propos recueillis par Billy Van Lutumba.
L'arbre, le salut de notre planète, plantons-le et gardons-le dans nos milieux. C'est un credo. Tout celui qui l'a prononcé avec conviction devra donc procéder à planter l'arbre. Pourquoi pas au moins une fois par semaine planter l'arbre dans son milieu de vie et bien le garder. Il ne suffit pas de planter, mais il faut encore le garder. Parce que ceux qui ont planté avant nous ont permis d'être sous l'ombre. Plantons pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour notre propre vie. Je profite de cette occasion pour lancer le programme national d'afforestation et de reboisement PRONAR en sigle RDC, conformément à la décennie mondiale et africaine d'afforestation et reboisement, afin de poursuivre l'atteinte des objectifs du défi des bornes à l'horizon 2030 pour planter au moins 8 millions d'hectares. Comme une contribution de la RDC Pays Solutions au maintien de l'équilibre climatique pour la survie planétaire. Je voudrais vous informer, la première conférence internationale d'afforestation et de reboisement a eu lieu à Brazzaville.
Dans la suite de cet appel, Madame la ministre F. Bazaïba rappelle l'inéluctable apport de l'arbre en matière de services en soulignant les impacts négatifs de sa destruction, entre autres le réchauffement, l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Pendant ce temps, au Nord Kivu, la guerre a détruit tous les efforts de reboisement entrepris par les acteurs en province. D'importantes étendues de plantations dans les territoires de Niragongo et Masisi ont été détruites par la guerre. En plus de la déforestation et l'abattage continu des arbres pour l'utilisation de la braise, c'est en tout cas l'état des lieux de l'écosystème au Nord Kivu que dresse le Fonds forestier national FFN à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'arbre le 5 décembre. On écoute à ce sujet Alexandre Baraka, chargé des aspects techniques au sein de FFN Nord Kivu. Il est au micro de Denise Lukeso.
L'état des lieux, il est alarmant. La province du Nord Kivu, aujourd'hui avec la guerre, il y a le territoire de Niragongo par exemple. Toutes les plantations que nous avons eu à réaliser dans le territoire de Niragongo et surtout à des entités touchées par la guerre n'existent plus aujourd'hui. Quand on va par exemple à Masisi, le Fonds forestier national depuis 2010 subventionne les organisations de Masisi, finance les activités de reboisement dans les Masisi. Mais aujourd'hui c'est alarmant du fait que Ces organisations viennent vers nous avec des rapports pour nous montrer le niveau de destruction des ennemis des écosystèmes forestiers. Lubero s'est touché aujourd'hui, Walikali une partie touchée, Rutshuru n'en parlons même pas. C'est presque toutes les entités prises par les ennemis, il y a la déforestation accrue. Donc le tableau, il est peint avec des chiffres totalement alarmants pour la province du Nord Kivu et surtout pour les écosystèmes forestiers.
Notez qu'en plus d'autres activités organisées à cette occasion, le FFN a financé le reboisement d'environ 5 hectares dans le quartier de Mugunga à Goma, où des centaines d'arbres seront plantés.
Actualité internationale.
Nous sommes en Ouganda, au camp des réfugiés de Kiryandongo. Une crise silencieuse mais alarmante s'y joue. La détérioration de la santé mentale des réfugiés, exacerbée par des conditions de vie difficiles et des traumatismes antérieurs, a conduit à une augmentation préoccupante des suicides. Ceci ressort d'une enquête des Nations Unies entre janvier et octobre 2024. Selon ce rapport, 41 suicides ont été recensés, accompagnés de plus de 130 tentatives.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Noël Mbemba. Il est délégué général du gouvernement en charge de la MONUSCO et c'est lui qui coordonne le secrétariat technique qui s'occupe du désengagement de la mission onusienne au Congo. Il fait partie d'une mission conjointe gouvernement MONUSCO, Agence des Nations Unies dans le Sud Kivu. Jean Kassami l'a rencontré à Bukavu. Voici leur entretien.
Bonjour.
Bonjour.
On peut d'abord comprendre c'est quoi le bien fondé de cette mission conjointe?
Oui, la mission conjointe, son bien fondé, c'est le fait de voir, après le départ de la MONUSCO, qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de la feuille de route qui a été édictée par le Sud Kivu. Il y a une feuille de route qui accompagne la transition et après 6 mois, on aimerait voir comment est-ce que cette feuille de route a été mise en œuvre. Ensuite, c'est de voir dans quel état se trouve le matériel que la MONUSCO nous a laissé, quel est l'état de fonctionnement des sites, et surtout, quel est l'effectif que l'armée a mis à la disposition des unités qui sont ici pour essayer de voir comment fonctionne le désengagement de la MONUSCO.
Les sites légués au gouvernement par la MONUSCO sont légion. Aujourd'hui, vous ne faites que visiter 3. Quelles sont vos impressions après avoir visité les 3 sites?
Bon, les 3 sites, c'est un échantillon que nous avons prélevé, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Et après ici, on ira à New York, puisque le 18 déjà, il y aura la nouvelle résolution. Donc, c'est un échantillon que nous avons pris, mais les impressions sont très bonnes. Nous avons remarqué que les militaires qui sont ici ont gardé du matériel et surtout le site en bon état et surtout qu'ils utilisent. Ce n'est pas de site abandonné. Donc on peut dire félicitations à nos vaillants militaires qui tiennent ce site-là.
Le processus PDD-RCS en cours nécessite la conjugaison des efforts des partenaires. Comment le gouvernement pense-t-il s'y prendre sans la MONUSCO Sud Kivu?
Il faut dire déjà que le désengagement de la MONUSCO est irréversible. Mais quand tout temps, attendez d'abord la résolution qui va sortir le 18, on ne peut pas se prononcer quand on ne sait pas ce qui est dans la résolution. Donc je ne saurais pas vous dire quand la MONUSCO va partir. Quand on arrivera à 2025, on verra s'il faut prolonger, sinon on se limite là-bas. Mais en dehors de la transition, il y a le projet de développement qui vont continuer. L'État n'est pas mort, c'est l'État qui prend les relèves partout, mais qui va travailler avec ses partenaires qui sont les agences, fonds et programmes.
Le PDD-RCS, puisque c'est encore de ça qu'il s'agit, compte avoir au moins 50 millions de dollars américains pour atteindre ses objectifs. Le gouvernement est-il aujourd'hui déjà disposé avec son enveloppe pour poser le premier geste qui va encourager les autres partenaires?
Je voudrais vous dire déjà que le PDD fonctionne déjà. Si ça fonctionne, c'est que ça est avec l'enveloppe du gouvernement, une partie de l'enveloppe du gouvernement. La suite va venir. Donc on ne dit pas que c'est fini. Donc la suite va venir, il y aura les apports aussi qui vont venir des autres partenaires. Donc ce n'est pas pour autant dire que le PDD ne va pas fonctionner. Vous savez qu'il y a eu des pays qui ont eu un programme beaucoup plus long, puisque c'est un processus qui ne s'arrête pas en un jour, en 2 jours, c'est un processus. Et le gouvernement va continuer à soutenir le PDSS avec ses partenaires.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur.
Je vous en prie, merci.
C'était là notre invité Noël Mbemba, délégué général du gouvernement en charge de la MONUSCO, et c'est lui également qui coordonne le secrétariat technique qui s'occupe du désengagement de la mission onusienne au Congo. Il répondait aux questions de Jean Kassami. Par ici prend fin ce journal, mis en onde par Debs Vita. Merci de rester des nôtres.